Ça va bien?
Ça va, par la grâce de Dieu.
Ah, la voix est toute petite, tu vas t'approcher un peu du micro, je vais devoir augmenter aussi un peu. Voilà qui est fait, donc c'est fait. Et donc, alors, tu nous viens d'où ça?
De Ducos.
Ducos. Ducos, c'est carrément au sud de la Martinique.
Voilà, tout à fait.
Nous sommes en ce moment à l'opposé.
Oui.
Et le prénom, c'est comment?
Mylène.
Mylène. Donc, bienvenue, Mylène, jusqu'à Basse-Pointe, ça fait un bout, hein?
Voilà.
Ducos, Basse-Pointe, ça fait 1 heure de route, tu vois?
À peu près.
À peu près?
Oui.
J'ai vu que vous êtes arrivé avec une bolide, ça a pris moins d'une heure. Bonjour mon frère, tu vas bien?
Oui, bonjour, je dis bonjour à tous nos amis auditeurs.
Oui.
Et auditrices.
Là, tu es en pleine forme apparemment.
Toujours.
Toujours.
Avec le Seigneur.
Et toi, tu sors d'où ça?
Eh bien, je sors du Saint-Esprit.
D'accord, c'est ton pote du Corse là?
Tout à fait, oui, c'est la porte à côté.
D'accord. Saint-Esprit, une belle commune.
Oui. Mm-hmm. Un beau nom aussi.
Qu'est-ce qu'il y a quand on est intéressé à Saint-Esprit, comme lieu à visiter?
Bien, à vrai dire, pas grand-chose, hein, mais...
Ah bon? Tu es un mauvais... comment on dit ça? Saint-Esprit, hein? Comment on dit les habitants de Saint-Esprit?
Non, je veux dire qu'il n'y a pas de site touristique à proprement dit, mais... Ça vaut le coup de faire le détour, parce que c'est une commune rurale où il y a des plantations de bananes, de canne à sucre.
Donc il n'y a pas d'activité portuaire, il n'y a pas de
port du
de plaisance, vous n'avez pas de belles plages.
Non, non.
On n'a pas ces choses-là.
Non, pas
du tout. Vous êtes comme nous alors?
Oui, à peu près.
À peu près. Merci. Le prénom c'est comment? Rappelle-nous.
C'est Eddie.
Eddie?
Oui.
Eddie. Comme Eddie Murphy. Alors, on l'a dit au départ, on le redit encore, nous sommes dans le cadre de l'émission Entre nous, nous allons recevoir Mylène ce matin qui va témoigner. Et Eddie, pas Eddie Murphy, mais Eddie portera le message de la parole de Dieu. Que pour le monde. On va redire bonjour à Mylène. Donc, Mylène qui vient de, je le rappelle, hein, de Ducos. Ducos qui est connu, qui est très connu pour son centre pénitentiaire. T'attendais à quoi?
Ben, autre chose.
Non, mais vous êtes connu pour ça. Généralement, en Martinique, on dit que Marie-Vaud du Cos. Ça veut tout dire.
Ben oui.
Ça veut dire malheureusement. Hein,
malheureusement.
Ben, comme c'est, ça crée des emplois quand même.
Ben oui. Comme
quelques emplois du Cos.
Oui.
Bon, ben, quelques inquiétudes aussi lorsqu'on sait qu'il y a un prisonnier qui s'est évadé. Il y a quelques inquiétudes aussi, mais c'est, à part ça, tout va bien.
En ce qui me concerne, je ne suis pas inquiète.
Amen. Tu es en Jésus-Christ.
Ah oui. Quel que soit ce qui se passe, je fais confiance à Dieu et puis voilà.
Alors, Mylène, dis-nous, est-ce que tu es originaire de Ducos? Est-ce que vraiment
non, de Fort-de-France.
Tu es fruit à l'aise d'origine?
Voilà.
D'accord. De quel côté?
Dillon.
Dillon?
Oui.
Ça remonte à quelques années? Toi qui t'es Dillon depuis quand?
Comment?
Toi qui t'es Dillon depuis quand?
14 ans. J'avais
14 ans.
14 ans.
Alors, tu as suivi tes parents ou bien...
J'ai suivi mes parents qui ont construit sur le Saint-Esprit.
D'accord. Comment c'était à Ducos? En Fort-de-France, comment c'était à Dillon, la vie à Dillon? Est-ce qu'il y avait déjà ces grandes cités-là, ces buildings qu'on voit à Dillon?
De toutes les façons, nous savons avec l'évolution du temps et des choses que les choses ne s'arrangent pas. Et Dillon, à un temps, il était connu pour... le fameux coin qu'on appelait Dallas, c'est ça? Oui, le fond de Dillon.
Uh-huh.
Et puis après, ça s'est calmé. Mais maintenant, je crois que... Maintenant, je ne sais pas s'il fait bon vivre à Dillon, mais...
Il y a un quartier qui s'appelle Dallas à Dillon?
Oui.
C'était réputé pour... Il y a des choses qui se passent là?
Combat, la guerre entre...
J'irai et Wynne, tout ça. D'accord. Donc, comment ça se passe dans la maison entre vous? Vous êtes combien en fait?
En fait, nous sommes deux filles, deux garçons.
Oui.
Et on a vécu pendant quand même, parce que mon père, on n'était pas dans un appartement, mais dans une maison individuelle.
Oui.
Et on a vécu assez bien. Et puis, on a grandi plutôt dans le calme.
Donc, papa gâtait les filles et maman gâtait les garçons.
On peut... Papa gâtait les filles. Mon papa n'était pas souvent là.
Il n'était pas souvent là. D'accord.
Rêve notre terre que dans la joie.
Alors, tu as grandi jusqu'à 14 ans donc à Dillon. Tu es allé à l'école, ça s'est bien passé. Tu as une bonne scolarité.
Ben justement, ça fait partie de mon témoignage. Voilà.
Oui.
Donc,
qu'est-ce qui fait partie de ton témoignage?
C'était très agité, ma scolarité.
Pourquoi?
par rapport à ce que je vivais et que je vais vous raconter tout à l'heure.
D'accord, dans quelques secondes, tu vas nous raconter tout ça, n'est-ce pas?
Voilà.
Que Dieu soit béni.
En fait, pour donner gloire à Dieu, en fait, au départ, au niveau de mon témoignage, c'est quelque chose d'assez simple. J'ai vécu, comme on a dit tout à l'heure là, sur Dillon. Mm-hmm. J'ai beaucoup... en fait, j'étais à l'école, mais d'une façon... J'étais une enfant qui était plutôt renfermée. Mm-hmm. Je n'aimais pas être mélangée aux autres, parler avec les autres, parce que je prenais plus plaisir à vivre avec des personnes que j'avais inventées, qui étaient autour de moi. Et depuis quand j'ai été tout petit.
C'est-à-dire, des gens que tu avais inventés, des personnes virtuelles.
Ça paraît un petit peu bizarre. En fait, à cette époque-là, je trouvais ça tout à fait normal parce que depuis quand j'étais toute petite, j'avais l'habitude de voir des choses. Mmh. Donc, je voyais des gens autour de moi. Et je me retirais souvent pour vivre, enfin, pour être seule et puis pour bien vivre ces choses-là. Et pour moi, c'était tout à fait normal.
Comment on va appeler ça? On va appeler ça des fantômes, des...
Je ne peux pas. En fait, jusqu'à présent, je peux pas dire que ce sont des fantômes, mais je sais que j'ai toujours vécu retiré des autres, de ma sœur et de mes frères, pour pouvoir... j'étais un petit peu à part, voilà. Mm-hmm. Et c'est quand j'ai connu le Seigneur, donc que j'ai su que... J'ai compris que ce n'était pas normal. Mm-hmm. Alors, ça a commencé, en fait, par rapport à ma naissance. Je suis née dans une famille... mon père et ma mère... il y avait mon père et ma mère. Et de par ma grand-mère, qui vivait à l'époque avec quelqu'un, avec un séancier, eh bien, quand ma mère était enceinte de moi...
Ta mère vivait avec un séancier?
Ma grand-mère.
Ta grand-mère, oui, d'accord.
Et quand ma mère, elle était enceinte de moi, c'est par la suite, en fait, je veux bien expliquer que j'ai su hein, le dénouement des choses parce que moi, je ne savais pas. Mm-hmm. Et cette personne-là avait demandé à ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi, de me confier, de lui donner l'enfant que tu portes. Elle avait dit à ma mère, donne-moi l'enfant que tu as dans ton ventre. Mm-hmm. Et ma mère, bien sûr, comme je suis la fille aînée de la famille, elle avait refusé. Mais il s'est passé certainement des choses à cette époque-là dans la maison. Et quand je suis née morte. Le médecin est venu voir ma mère. Il a dit à ma mère que voilà, que l'enfant est morte et que je suis vraiment désolée et tout ça. Et ma mère, comme je suis son premier enfant... Elle était malade, etc. et tout.
Désemparée.
Désemparée, ouais. Voilà.
Accablée.
Et, le temps de me nettoyer, etc. et tout ça, peut-être 2 heures de temps après, ils ont dit à ma mère de venir dire au revoir à l'enfant. Et ma mère a dit que je ne veux pas qu'on l'enterre ou bien qu'on l'emmène, je ne sais pas trop où, là on met les bébés et tout. Comme ça, parce que j'avais préparé une layette, j'aurais souhaité qu'elle mette ce vêtement-là sur l'enfant. Et à ce moment-là, quand l'infirmière, la sage-femme m'habillait, elle a pris le vêtement que ma mère lui a donné, elle m'habillait et on a vu que j'avais un souffle, peut-être 2 heures après ma naissance.
Ah bon?
Et ouais. Par rapport à ça, la sage-femme elle a poussé un cri, elle a dit « Mais l'enfant n'est pas morte, j'ai vu qu'elle a respiré. » Et le médecin même était déjà parti, puisque...
Ah, oui.
Et tout ça, ils sont venus, ils ont vu effectivement que j'étais vivante. Alors c'est là que tout a commencé. Avec la naissance, déjà, vous voyez que, cher auditeur, que ce n'est pas quelque chose de normal. Mais je bénis le Seigneur.
Ta présence ici est une présence miraculeuse.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, tu ne devrais pas être là.
Voilà. Mm-hmm. Mais Dieu a voulu que ce soit autrement.
D'accord. Mm-hmm. Donc finalement, ça a continué comment? Donc un enfant qui meurt à la naissance, après qui revient à la vie.
Après 2 heures. Deux heures après la naissance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les médecins ont expliqué que... C'était déjà la sage-femme est venue dans la chambre de ma mère, elle a dit que de ne pas donner le prénom Mylène, mais de donner René, parce que c'est une enfant c'est un miracle. Elle n'a jamais vu ça. Ma mère a dit non, j'ai choisi ce prénom, je garde ce prénom pour elle, et tout ça. Et le médecin a dit bon, que ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, au niveau de la science, on essaie toujours d'expliquer les choses d'une manière ou d'une autre.
De manière rationnelle.
Voilà. Et ceci dit, j'ai vécu tout à fait normalement, en fait, comme une petite fille. Mais j'étais plutôt réservée, renfermée, parce que très tôt... Quand j'ai commencé à prendre conscience, bon, il y a des années que j'oublie, mais je sais que je vivais particulièrement enfermée. J'aimais être seule dans un coin et parce que je voyais certaines choses des personnes qui sont décédées depuis très longtemps, que je voyais, et des enfants aussi qui venaient, qui parlent.
Est-ce que tu parles avec eux justement ?
Je ne me souviens pas ce que je disais ou ce que je faisais, mais je sais qu'il y avait des présences autour de moi. Et, et je me sentais mieux avec ces présences-là que être, de jouer avec ma soeur, de jouer avec mes frères. Et
en
tout
pleine
ça.
Journée comme ça ou bien uniquement
quelque
le soir ?
Quelle soit la journée ou le soir, je voyais les choses.
Est-ce que tu en parlais à ta maman, à ton papa ?
En fait, non, j'ai jamais parlé à qui que ce soit. Je sais pas pourquoi, parce que c'était comme un secret. Je n'en parlais pas du tout.
Pas du tout ?
Non.
Bouche cousue. Et tes parents n'ont rien remarqué ?
Mon père, de par son métier, il n'était pas souvent là, comme j'ai dit au début, parce que il était entrepreneur en bâtiment. Donc... Il partait très tôt et tout ça. Ils avaient une vie un petit peu saccadée. Et ma mère, de par ce qu'elle vivait à cette époque-là aussi, je ne pouvais pas vraiment lui dire, venir en ajouter. Donc, j'étais plutôt à part.
Donc, est-ce que ça t'a fait de la peine de voir que ton père n'était pas souvent là, souvent à la maison ? Est-ce qu'il te manquait, en fait ?
Parce qu'on
pensait que les petites filles sont rattachées à leur papa, à moins que toi, ce soit autrement.
Je crois que par rapport à ce qu'on vit, ça ne m'a pas manqué du tout. En fait, je savais qu'il était là, c'était l'autorité quand il arrivait. Ça me confortait à me mettre dans ma chambre, etc. Et tout ça parce qu'il avait une certaine autorité à cette époque. Et non, ça ne m'a pas manqué pour dire que ça m'embêtait de ne pas le voir là ou de ne pas pouvoir lui en parler, pas du tout.
Je note que tu dis bien à cette époque-là. Pourquoi tu insistes au fait-là ?
Parce qu'il a changé depuis, parce que par rapport à ce qu'on a vécu aussi au sein de notre famille, il a recherché le Seigneur. Et je peux dire par la grâce de Dieu maintenant que c'est parce que mes parents ont connu le Seigneur que maintenant que j'ai pu connaître aussi.
Donc jusqu'à quel âge ça va durer cette situation ? Vas-y.
Jusqu'à l'âge de, je dirais, de 14 ans. Parce que ça s'est... En fait, il s'est passé un événement assez bizarre. J'étais à l'école, au collège. Je dirais même 13 ans. J'étais à l'école et puis il y a une crise. C'est ce qu'on appelle maintenant, que les médecins expliquent par la spasmophilie. Et j'ai eu une crise parce que souvent, j'étais souvent irritée. J'avais tendance à crier ou bien... Je ne pouvais pas supporter la trop de présence autour de moi. Et donc, les médecins disaient parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais suivie très tôt par un médecin. Et à ce moment-là, j'ai piqué une crise à l'école. Et en fait, j'ai fait une tentative de suicide.
Déjà à quel âge ?
À 13 ans. Et pendant que j'étais à l'école, j'ai fait tomber par le balcon du collège, au collège de Dillon. J'étais là. Et puis, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé de me faire suivre par un psychologue à cette époque. Et les médecins ont dit que j'étais spasmophile.
Oui.
Et donc, mais toujours est-il, même au psychologue, je n'en parlais pas, je ne dévoilais pas ce qu'il y avait en moi. Ouais. Parce que je n'arrivais pas.
Tu allais à la visite juste pour aller à la visite, mais sans avoir en pensée l'idée de confesser quoi que ce soit.
En fait, je me souviens une fois, j'étais à la Mina et il y avait un psychologue qui était venu. C'est une image que j'ai toujours gardée. Et puis, c'était un métro, hein, avec sa veste blanche, etc. Il m'a dit, je vous écoute. On a passé une heure, j'ai pas dit un mot, je suis repartie.
Ah oui.
Parce que je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais, tout ça. Je n'arrivais pas. Et au fil des années, je prenais beaucoup de médicaments. On m'avait mis sur on m'avait donné des médicaments pour dormir, pour être tranquille. Hein, voilà. Et puis, c'est un jour, je vais dire voilà ce que j'étais avant. Mmh. Et comment les choses se sont révélées, c'est qu'un jour, mon père a eu beaucoup de problèmes.
Attends, avant d'aller jusque-là, revenons un peu en arrière.
Oui.
Si tu veux bien, hein, Mylène, on n'est pas pressé, on a le temps. Donc, Mylène, mais est-ce qu'une jeune fille de 14-13 ans, c'est pas bizarre qu'elle soit antidépresseur à cet âge-là? Est-ce que c'est... Dans le quartier, à l'école, ça faisait quoi de savoir que toi, tu étais à 14 ans, 13 ans, en sont antidépresseurs? C'est quand même rare, ça.
C'est pas quelque chose... Je ne peux pas dire comment les gens vivaient ça autour de moi.
Oui.
Parce qu'au niveau de ma famille, on a toujours gardé les gens... Mon père m'a toujours, si vous voulez...
Protégé.
Mmh. Donc, comme j'étais l'enfant, la petite fille maladive, donc j'étais un petit peu plus...
j'étais shootée, très gâtée.
Voilà, exactement. Je n'ai pas ressenti le regard des gens à l'extérieur par rapport à ça. Moi, je ne trouvais pas ça bizarre, parce que dans la mesure où moi-même, dans toute ma scolarité, j'ai dû avoir deux ou trois copines. Et je ne partageais pas ce que je vivais avec les autres. Donc, je ne pouvais pas ressentir et les gens ne pouvaient pas savoir ce que moi, je vivais. D'accord. Le Seigneur a permis que je... Le Seigneur, je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, que le Seigneur a permis que je vive ça.
Mmh.
Et par rapport à ce que je fais aujourd'hui.
Mmh.
Comment j'ai su? Parce que pour moi, tout était normal. Ma vie était normale. C'est ce qui paraît bizarre, parce que maintenant, je peux dire que ce n'est pas normal. Mais avant, tout était normal chez moi.
Mm-hmm.
Et quand quelqu'un me posait une question, même les psychologues, le psychologue me disait comment je vis certaines choses. Je le regardais, je lui disais, mais que le monsieur, là, il a un problème, parce que je ne vois pas que j'ai quelque chose d'anormal.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour cette raison-là que je n'ai jamais pu aller plus loin au niveau des consultations.
Pour toi, tu estimais que tu étais une personne normale, tandis qu'en face, il y avait des gens anormaux.
Tout à fait. Et ce qui se passait aussi, ce que je me souviens, c'est que souvent, j'avais la possibilité de vivre des choses, de voir des choses qui se passaient ailleurs que chez moi.
Mm-hmm.
Donc, très tôt, j'avais cette possibilité-là de voir des choses dans le spirituel.
Oui.
Mais tout se passait autour des personnes qui étaient mortes ou décédées depuis très longtemps, des gens que je n'avais jamais vus, que je ne connaissais pas, ou bien je disais à ma mère, est-ce que tu connais telle ou telle personne? Ma mère me dit, mais où est-ce que tu as pris ce nom-là? Je dis, mais c'est parce que j'ai vu cette personne-là, j'ai vu.
Mm-hmm.
Mais elle était tellement occupée, elle avait tellement de problèmes aussi elle-même, qu'elle ne s'arrêtait pas à ces détails-là.
Peut-être que s'il y avait une vieille personne, elle t'aurait dit que tu as un don où tu peux travailler, quoi. Ça me parle,
oui.
Tu sais comment les gens disent ça. Donc, elle dit que tu peux travailler, quoi. Tu peux faire la séance, quoi. On va dire comme ça.
Oui, mais je regarde, grâce à Dieu, je ne suis pas...
On t'a jamais dit ça,
hein? Non.
Parce
non.
Que quand
il y a une dame à Sainte-Marie,
oui.
Parce que mes parents sont originaires de Sainte-Marie. Quand j'allais en vacances, qui me disait de venir la voir parce qu'elle... Elle avait dit à ma mère que j'étais une enfant assez particulière et qu'elle aurait aimé que je reste avec elle.
Oui.
Pour
faire travailler.
Je ne sais pas, mais ma mère avait refusé catégoriquement. Parce que mes parents, ils n'ont jamais été spécialement dans l'occultisme ou ça. Ma mère avait refusé. Hein. Mais je rends grâce à Dieu, je n'ai pas eu l'occasion d'aller ou de manier ou de faire ce genre de choses-là. D'accord. Ça s'est passé parce qu'il y avait au départ, je répète bien pour les auditeurs, parce que quelqu'un qui a voulu, parce que quand on a des liens de sang dans la famille, qui a voulu faire quelque chose avec ma vie, alors que ma mère était enceinte de moi, donc il y a eu certaines choses qui s'est passées et j'ai vécu comme ça par rapport à ça. Voilà.
D'accord. Et Geneviève, entre 16 et 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as continué?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma vie, en fait, quand j'ai commencé, j'ai dû partir. Je suis partie parce que le médecin m'avait demandé à ma mère de me faire changer d'air. Donc ma maman m'a envoyé en France, chez un oncle à moi. Et donc j'ai vécu là, toujours est-il avec... quand je suis arrivée là-bas, je ressentais les présences, mais différemment. En fait, je me souviens, un jour, j'ai vu quelqu'un dans ma chambre, mais d'une monstre... Enfin, je voyais encore les choses, mais dans un autre volume, différemment. Et à ce moment-là, je ne disais rien du tout à personne, parce que ma tante n'aurait pas pu comprendre. Et puis, voilà, mais j'ai fait le reste de mes études en France. Et puis à un certain moment, je suis revenue ici. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur en revenant à Martinique.
D'accord, ok. Voilà. Ben, on te fait une nouvelle pause musicale et puis tu nous racontes ça.
Comment j'ai rencontré le Seigneur.
Voilà.
Et c'est là que c'est plus intéressant parce que...
Tu n'aimes pas trop parler du passé, apparemment.
C'est pas que je n'aime pas parler du passé, mais je trouve que c'est beaucoup plus important la manière que le Seigneur m'a fait renaître.
Non, mais parce que non, tu dis cela pour toi, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la même situation que tu étais dans ce temps-là, et qui aimeraient bien savoir comment tu étais avant et comment tu t'en es sorti. Les deux sont importants. Savoir où on était, parce que celui dit que ce que tu es aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de valeur.
De valeur.
Que, voilà. Tout mais à quand fait. Tu dis que là où tu es sorti, là où tu t'es amené, là, quand il y a un témoignage complet, si tu dis que ce que tu es maintenant, c'est partiel.
Voilà.
Je pense qu'il
faut. Je suis tout à fait d'accord.
Je pense que c'est important de dire les deux. Donc, nous allons mettre face à la phase où tu as rencontré le Seigneur. C'est un moment merveilleux, je suppose. Un moment inoubliable.
Oui, ça c'est sûr.
Ça s'est passé comment?
Surtout de cette manière.
Ah.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en France, mon père, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup. Il n'arrivait plus à dormir chez lui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Donc ça, c'est son témoignage. Je ne vais pas entrer là-dedans.
Mmh.
Et il a commencé à... On l'a conseillé d'aller voir certaines personnes, des gens. Parce que comme il était entrepreneur en bâtiment, et on lui a dit qu'il faut qu'il se protège.
Des gens qui vous promettent des paiements après résultat.
Voilà. Mmh. Et il a commencé à aller voir certaines personnes et tout ça. Mais ça s'est empiré. Mmh. Et à la maison, il est arrivé à un stade où il ne pouvait même pas dormir le soir. Il y avait des choses vraiment qui se passaient. Et jusqu'un jour, il a rencontré une dame qui lui a dit, mais vous avez essayé toute qualité bagaille, pourquoi pas aller en pasté? Et mon père, il était très catholique, très fervent dans le catholicisme. Il a dit non. Il a dit non. Comme les choses se sont renforcées, en dernier recours, il est allé vers un pasteur. Et à ce moment-là, on est venu prier chez lui et les choses se sont déclenchées comme ça. Mais moi, pendant cette période-là, j'étais en France, alors donc je ne savais pas. Et ma mère m'appelle, elle me dit, bon, qu'ils ont donné... Je ne veux pas trop m'étaler sur la partie de témoignage de mes parents. Hein. Et ils m'ont dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Alors j'ai dit, ah ben tiens, voilà, encore... Mais je vous dis vraiment, mes chers auditeurs, j'étais une personne très rebelle par rapport à ce que j'avais.
Oui.
C'était, je ne voulais pas entendre parler de Dieu. Je savais, en fait, j'avais déjà la crainte de Dieu, mais je ne voulais pas entrer dans ces choses-là, ni l'un ni l'autre.
Tu voulais rester neutre, quoi.
Neutre, voilà. Et puis, quand je suis rentrée en Martinique, j'ai vu qu'ils se réunissaient dans une église à Châteaubœuf. Et mon père, naturellement, m'emmenait à l'église, au temple.
T'avais quel âge?
Je devais avoir, quand je suis revenue, je devais avoir 19 ans.
19
ans. Alors, j'accompagnais mes parents. Et dès que j'arrivais à l'église, quelle que soit l'heure, je dormais. Le diable ne voulait pas que j'entende la parole de Dieu. Donc, il y avait un sommeil, je m'endormais. Et c'est quand le pasteur disait à la fin du culte « Amen » que je me réveillais systématiquement. Donc, je suis restée presque peut-être 6 mois comme ça, en train de dormir. J'allais à l'église pour faire plaisir à mes parents et je dormais à l'église.
Ouais.
Et puis, un jour, il y a eu un autre pasteur qui est venu. Je rends grâce à Dieu pour ce serviteur. C'est le pasteur Xavier, Xavier Foster. Et il est venu en visite dans cette église-là. Comme le pasteur de l'église n'était absent, on a demandé qui est-ce qui veut recevoir un serviteur chez mon père systématiquement. Il m'a dit que il ne sait pas pourquoi il a levé sa main. Et on a reçu le pasteur Xavier à la maison. Et bien sûr, moi, dans tout mon état, j'étais tout le temps dans le même étage. J'aimais rester seule dans ma chambre, etc. Et le jour que mon père a reçu cet homme à la maison, enfin, a dit oui, je n'étais pas à l'église. Donc, il est arrivé à la maison avec cette personne. Et il demande à ma mère, où n'y a une fille ici, y a, etc. Parce que le Seigneur lui avait entre-temps parlé de moi. Et ma mère dit oui, mais que c'est quelqu'un qui est malade, l'espace mophile, etc. Et tout ça. Et il est comme la maison de mes parents à étage, j'habitais en bas. Et il est venu, et pour la première fois que je le voyais, il m'a dit que mon père venait soit là pour, mais moi qui virais. Parce que bon Dieu qui voulait moi faire entrer dans l'avion. Quand il m'a dit ça, j'ai senti une colère monter en moi. J'étais tellement énervée. J'ai pris la chambre, j'avais un studio en bas. J'ai remué la chambre parce qu'il y avait une force en moi. J'ai changé la chambre de sens dans une fraction de seconde. Je suis montée voir ma mère. J'ai dit à ma mère, quand elle a ce genre de personnalité-là qui vient chez elle, de me prévenir pour que je ne puisse pas rester là. Pour que je ne puisse pas rester là. Et j'étais très en colère. Je n'ai même pas mangé. Je me souviens. Et puis le soir, je suis tombée malade. Alors, donc, ils m'ont emmenée à l'hôpital en disant que j'avais encore une crise de spasmophilie. Je précise bien parce que je veux que les gens puissent savoir que souvent, les médecins déclarent qu'on a quelque chose. Mais souvent, parce que quand les médecins n'arrivent pas à expliquer certaines choses qui se passent dans la vie d'un patient, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils sont dépressifs maintenant ou spasmophiles. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais souvent, c'est généré par des esprits, des puissances, et qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on dit bon, et bien même nous, on se lit encore, on dit ah, je suis spasmophile, je suis spasmophile.
Ça peut être un démon, un spasmophile.
Tout à fait. Et bien ce soir-là, j'étais dans tous mes états. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, on m'a donné des piqûres pour me calmer. Et après quelques heures, mes parents sont remontés avec moi. Mais il ne s'est rien passé de particulier. C'est une année après, je dis bien une année, que j'ai rencontré le pasteur Xavier. Je suis allée mon frère m'a ramenée dans une évangélisation. Et quand je suis arrivée dans cette église-là, enfin, il y avait un séminaire, je ne sais pas trop quoi. Il s'est passé quelque chose en moi. La même colère, etc., est revenue. Et je suis allée visiter l'église le matin. Enfin, c'est un dimanche. Et l'après-midi, le pasteur Xavier, il est revenu sur la Martinique. Et il a dit à la personne de l'emmener directement chez mes parents. Et c'est là que vraiment, vraiment que les choses ont commencé. C'est-à-dire... Il est venu spécialement, le Seigneur l'a fait entrer en Martinique spécialement pour pouvoir prier parce qu'il m'avait déjà dit qu'il serait revenu. Ouais. Mais une année, hein, je pensais
une
pas.
Une année après.
Oui.
Il n'a pas oublié.
Le Seigneur n'a pas oublié. Je peux dire ça comme ça parce que quand il est rentré, il n'a pas dit qu'il n'était pas venu pour moi. Mais quand il est arrivé en Martinique, il a dit à la personne qui était venue le rencontrer de l'emmener directement chez mes parents. Et le soir, effectivement, j'étais malade à nouveau. Et j'étais couchée par terre, je me souviens et tout. Et quand il est arrivé chez mes parents, on m'a dit... parce que moi, j'avais la possibilité, une personne était dans une salle, de pouvoir, en étant dans ma chambre, de pouvoir savoir ce qui se passait autre part. Je lui ai dit au départ, je l'ai vu dans le salon et tout ça, moi, en étant dans la chambre, en train de parler, j'entendais, etc., ce qu'il disait. Et quand il est venu dans la chambre après moi, je n'étais plus du tout là. Le truc qui était en moi depuis à ma naissance a pris le contrôle de moi entièrement. Quand il m'a dit bonsoir Mylène, je lui ai dit d'une voix mais vraiment terrible que Mylène est morte.
Tu lui as dit ça?
À
l'esprit.
L'esprit lui a dit Mylène est morte. Mais c'était plus ma voix, c'était la voix d'une autre personne qui parlait.
Est-ce que tu étais consciente?
Non, en fait, j'étais semi-consciente. Je pouvais entendre certaines choses. Il y a certaines choses que je savais, il y a certaines choses que je ne savais pas. Et le truc, elle a dit, Mylène est morte. Et là, le pasteur a dit, Mylène n'est pas morte, Mylène qui est vive et qui a raconté la gloire de l'Éternel. Et là, c'est là que j'ai connu, en fait, la présence de Dieu, la première délivrance. Hein. Et il y a eu, c'était un combat terrible entre ceux qui étaient là, depuis à ma naissance, hein, et ce que, enfin, le travail que Dieu voulait faire dans ma vie. Et c'est ce soir-là que j'ai rencontré réellement Dieu, parce que après vraiment la délivrance, après le combat, je parlais comme un bébé, comme un bébé. Je me souviens de ce que je me souviens. Je disais maman, maman, et puis je me suis mise à pleurer. Et puis je dis à ma mère, enfin je peux te tenir vraiment, te toucher. Et puis et le Seigneur m'a fait vraiment renaître, vraiment renaître. Parce que tout ce que j'avais vécu jusqu'à cet âge-là, j'étais pas sous mon plein contrôle. J'étais contrôlée.
Tu étais plutôt manipulée, quoi.
Voilà. Et je rends grâce à Dieu. Et puis j'ai vu certaines choses. Le Seigneur m'a fait vivre certaines choses quand le nettoyage s'est terminé, vraiment. Parce que je me souviens que la délivrance a commencé à 20h. Ça s'est pendant toute une bonne partie de la nuit. Mes parents et le pasteur étaient en prière, plus d'autres personnes qui sont venues. Et ça s'est terminé vers les 1h du matin. On a commencé à louer le Seigneur quand il a senti que j'étais vraiment libre. Et c'est à ce moment-là que je peux dire que vraiment le Seigneur m'a fait vraiment naître de moi-même.
D'accord, Mylène. Donc, on va continuer. Donc, Mylène, donc finalement, on prie pour toi. Il y a délivrance, il y a des choses comme ça qui se passent. Donc, tu te dis que tu es semi-consciente. Donc, ça a duré combien de temps, cette délivrance? Est-ce que ça a des jours et des jours ou bien d'un coup?
En fait, la première fois que le Seigneur vraiment m'a visité, je peux dire que parce que j'ai eu ça, en fait, c'est de 20h jusqu'à 1h du matin après la délivrance. J'ai reçu, j'ai vu une lumière blanche. Enfin, une lumière blanche qui est venue sur moi, et je me souviens que j'ai commencé à pleurer, que le Seigneur m'a parlé. J'ai commencé à parler avec ma mère, comme si c'était la première fois que je parlais avec elle. Et je peux dire que ce soir-là, le Seigneur a fait un travail vraiment, un nettoyage complet, complet. Et ce qui se passe, c'est que, pour dire, c'est que certains, quand le diable sait qu'il perd quelqu'un comme ça, systématiquement, il y a un retour. Et comme moi, je ne connaissais pas et tout ça, par la suite, j'ai rencontré une personne avec qui je suis mon mari maintenant. Ouais. Et malheureusement, je suis tombée comme on n'était pas mariés à cette époque-là.
On a compris.
Et donc, systématiquement, il y a encore des choses qui sont revenues. Et tout ce que Dieu avait fait la première fois, il a eu. Maintenant, c'était.
Il y a une porte ouverte et puis c'est revenu.
C'est revenu. Et les choses se sont. À ce moment-là, j'ai dû aller poursuivre dans une église et suivre régulièrement. Et puis, il y a eu encore d'autres délivrances après ça par rapport à la première. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que. Souvent, le Seigneur, quand il nous appelle, eh bien, le Seigneur nous donne quelque chose de merveilleux, de quelque chose de... Je disais ça à Eddie, qu'on montait de propre, de neuf, et puis c'est nous-mêmes qui le salissons, en fait, tout au long des jours, des années. Et pour revenir vraiment à notre premier amour, pour revenir vraiment à ce que Dieu nous avait donné, maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il y a eu d'autres combats. Parce que à ce moment-là, je commence à étudier la parole, à savoir comment combattre quand je ressentais certaines choses, quand je voyais certaines choses. Et tout ce que je vivais par avant, je bénis le Seigneur. Ce que le diable a voulu utiliser en moi pour qu'il puisse vivre dans le spirituel, par rapport à ça, le Seigneur me permet après, maintenant, de l'utiliser maintenant, en fait. Je ne veux pas dire que je vois les choses, pas du tout. Mais ce que je veux dire, que
l'expérience,
cette expérience-là me sert maintenant par rapport à la parole, pour pouvoir aider les autres.
Donc, voilà. Finalement, donc, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout cas, ça t'a permis de pouvoir maintenant aider, de comprendre aussi les
autres. Ce que les gens peuvent vivre, surtout particulièrement que. Quand il y a des jeunes ou bien des gens qui sont renfermés ou bien qui n'arrivent pas à exprimer certaines choses, des fois le Seigneur me pousse à aller vers certaines personnes, à dialoguer avec eux par rapport à ce que j'ai vécu. Parce que bien sûr, il y a eu beaucoup d'étapes dans ma vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui recherchent Dieu, Oui. Mais moi, je dirais que j'ai jamais recherché vraiment Dieu. Mmh. Je dirais plutôt que Dieu, il est venu, il a dit, bon, maintenant c'est le temps. Et puis il m'a secoué vraiment, ouais. Comme un linge sale, il m'a secoué, secoué pour enlever tout ce qui était là. Et puis voilà, c'était plutôt de force, parce que de moi-même, je n'ai jamais cherché vraiment à... Pour moi, je trouvais que c'était normal ce que je vivais. Moi, je m'étais déjà habituée et confortée dans ce que j'étais.
D'accord, mais quelle différence tu fais entre avant la délivrance et après la délivrance et après la rechute? Parce qu'il y a une délivrance, il y a une chute, oui. Il y a une nouvelle possession. Mais quelle différence tu fais entre les deux possessions, la première et celle qui était venue après la délivrance?
Voilà, en fait, la première, c'est quelque chose, c'est comme si c'est quelqu'un qui a mis la main, c'est-à-dire on est choisi. D'une puissance pour faire un travail. Donc, au fur et à mesure, il fait les choses plus doucement pour nous amener à ce travail.
Oui.
Et la deuxième, c'est qu'il sait qu'on connaît la parole. Il sait qu'on a déjà
une base.
Donc, il va faire les choses d'une façon plus violente pour pouvoir... Là, ce n'est pas à nous amener à faire quelque chose, mais pour pouvoir dire... Ou là, je parle à Dieu, je parle à Dieu. Ça, c'est ça. Donc, quand je suis tombée, c'était plutôt des combats.
Oui.
Je voyais des choses, les puissances que je voyais venir vers moi, c'était plutôt pour des luttes, des combats, la destruction.
Donc le combat était plus ouvert là.
C'était réellement que comme Dieu est contre nous, maintenant c'est la destruction. Et là c'était vraiment plus grave pour
moi. Il n'y a pas de camouflage, l'ennemi venait carrément attaquer.
Je voyais, oui c'est vrai. Quand j'étais, en fait je me souviens un jour, peut-être que ça a choqué les gens, mais en fait c'est une réalité que les gens n'aiment pas trop dire. En fait j'étais chez ma mère à cette époque-là, j'ai vu quelqu'un apparaître dans ma chambre, comme ça. Habillée en noir et la personne m'a prise et puis le truc m'a pris, m'a envoyée sur le... En fait, j'avais tout le temps des délivrances, tout le temps. J'étais tout le temps... On avait tout le temps un serviteur qui venait à la maison pour prier pour moi, tout le temps. J'avais pas droit à l'erreur. À partir du moment où j'ai dit non, là, parce que c'était vraiment dur. J'avais plus droit à l'erreur.
Ouais.
Et c'est...
Donc, on ne te faisait aucun cadeau à dire que du fait que tu avais laissé le camp, c'est comme si tu étais l'épouse du diable, en fait.
Je ne sais pas si j'étais... Oui, on peut dire ça comme ça, mais je n'aime pas trop.
Tu as ajouté, mais c'est comme ça, parce que c'est comme un mari
quelqu'un
jaloux.
Quelqu'un qui était dédié à ça, au diable, et puis quand je suis partie, ben là, c'était vraiment... Je ne sais pas. Le terme épouse.
Tu n'aimes pas trop. Donc, finalement, donc tu te maries, je vous tourne le micro, tu te maries, donc, et tu mets ta vie en règle devant Dieu, on dit ça
voilà,
comme ça, finalement.
Voilà, après beaucoup de combats, de luttes, je me suis mariée, et voilà.
Ça a été facile?
Au début, oui.
Ça a été facile au début?
Du mariage?
Non, est-ce que ça a été facile de prendre la décision et de passer à l'acte pour le mariage?
Non, c'était vraiment un combat parce que là, c'est un autre combat.
Et pourquoi est-ce que Léry est dit?
Comment?
Pourquoi est-ce que dit ça m'est arrivé?
Parce qu'il est au courant.
Ah d'accord, ok. Et dit, tu es au courant de quoi? Dit, mais tu me roi.
Mais je suis le beau-frère de Mylène.
Oui, vas-y, continue.
Donc, je connais son mari. C'est vrai que...
Son mari, c'est ton frère?
Non, c'est mon beau-frère en fait.
Oui.
je le connaissais très bien, donc je connaissais ses prétentions pour Mylène.
Oui. Donc bien amico.
Oui, donc c'est vrai que c'était pas facile pour eux. Donc je suis marié avec la sœur de Mylène qui est sa cadette.
Oui.
Et nous étions déjà mariés et Mylène et Michel devaient suivre le pas.
Oui.
Voilà, donc c'est vrai que ce n'était pas facile pour eux, mais grâce à Dieu, ils y sont arrivés.
Donc, beaucoup de combats, Mylène, apparemment.
Oui, oui.
D'accord. Donc, Mylène, est-ce que tu en as dit quelque chose pour conclure? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Vas-y.
En fait, ce que je voudrais faire pour dire, pour conclure, c'est que, aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que si, par exemple, dans leur famille ou dans leur entourage, ils ont... quelqu'un qui en vit à peu près la même chose ou similaire ou bien tout à fait autre chose, La première chose à faire dans un sens, que soit la personne, enfin, particulièrement pour les chrétiens, surtout sur un enfant. C'est-à-dire la personne va dans une assemblée, dans une église, et la personne n'arrive pas à écouter la parole. Parce que dans tout mon témoignage, ce que je sais, c'est que quand j'allais à l'église, je ne pouvais pas entendre la parole.
Tu t'endormais.
Je m'endormais. Cette personne-là devrait déjà se poser des questions. Parce, mm-hmm. Parce que l'ennemi, en fait, ce qui est là, parce que nous, souvent, nous sommes dans une église et on a des choses, même des liens, et on ne se rend pas compte qu'on est là, on dit on est fatigué, ça ne va pas trop aujourd'hui. Et puis, au fil des jours, des années, on se rend compte qu'on est à l'église, mais qu'on n'entend pas grand-chose. Hein, parce que c'est la parole qui produit des choses en nous, la parole qui travaille. Si la personne voit, constate, ou bien si vous voyez qu'il y a un frère ou une soeur en train de dormir dans l'église, secouez-le, dites, mon frère, la parole.
Mais tous ceux qui dorment dans l'église ne vont pas forcément procéder quand même.
Non, pas forcément, je n'ai pas dit ça, pas forcément, mais il faudrait que l'un...
On se pose des questions, quoi.
Faudrait qu'on se pose. Si la personne le fait juste une fois comme ça...
S'il est fatigué...
C'est parce que la personne peut être fatiguée, la personne a un coup de barre. Mais si la personne est régulièrement, la personne vient à l'église, la personne s'endort ou bien la personne... Là, on peut se poser des questions. Là, c'est-à-dire que cette personne a besoin d'une aide quelconque.
D'accord,
voilà,
okay.
C'est ce que je voudrais dire. Pour
alors, je crois que peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute et puis que ça concerne. Hein. Donc,
oui.
Si vous l'avez compris pour vous, vous êtes dans ce cas-là, vous désirez compris pour vous, vous allez nous appeler après l'émission hors antenne et on pourra prier pour vous hors antenne. Donc, c'est vrai que souvent, on voit dans les églises, il y a des frères qui viennent pour dormir. Quoi. Ils viennent, mais on sait que ce frère-là, quand il arrive à l'église, c'est pour dormir.
J'en connais quelques-uns.
Donc déjà, dans ce cas, il faut se poser des questions quand c'est quand même...
Non, si c'est régulier, parce que c'est vrai que ça peut arriver qu'on soit fatigué.
On va quand même être tout le temps fatigué, Mylène.
Oui, mais si on est tout le temps fatigué comme j'étais avant, ben là, il faut se poser des questions.
D'accord, et puis, délivrance aussi à la clé.
Oui, voilà.
Amen. Et maintenant, Mylène, maintenant, je pense que tu ne dors plus quand tu vas... À l'église.
Non, pas du tout.
Je ne pense pas que là où tu te réunis en ce moment, on peut dormir.
Ah non, pas du tout. Mais comme disait Eddie à l'instant, là où il y a la présence de Dieu, les gens ne dorment pas parce que la présence de Dieu ne nous laisse pas dormir en principe.
Ouais.
Si une personne dort régulièrement,
c'est qu'il y a un problème.
Ça, c'est ce que j'ai retenu vraiment de mon passé.
Oui.
Parce que dès qu'il s'agissait d'écouter la parole, je n'arrivais pas. Et je voudrais vraiment dire ça aux...
D'accord. Est-ce que tu as pu aider déjà des gens qui sont passés par le même problème que toi?
Sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup.
Oui.
Ce sont des personnes qui sont liées par des liens ancestraux, qui ont été consacrées, qui ont été... Le Seigneur m'a même permis de rencontrer une personne que je salue certainement. Elle habite sur la Guadeloupe. C'est Dominique. C'était l'une des épouses de Satan.
Oui.
Et le Seigneur, de par... En fait, quand je l'ai rencontrée, le Seigneur a permis qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble.
Oui.
Parce qu'elle avait des choses à m'enseigner par rapport à ce qu'elle avait vécu.
Oui.
Et elle m'a dit effectivement que j'étais choisie pour cela par la suite.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai dit non, en fait, quand tu as parlé de ça.
De la Guadeloupe.
Et quoi?
De ceux qui ne découvrent pas Internet, tout ça.
Non, quand tu as dit que épouse, quand tu as parlé d'épouse.
Ah d'accord, ok.
Et c'est vrai que cette personne, en fait, Dominique, elle s'appelle Dominique, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, elle m'a enseigné sur certaines choses que je faisais. Et c'est vrai que mon témoignage, il y a beaucoup de choses à dire, mais je bénis le Seigneur que le Seigneur m'a arrêté à temps.
Mm-hmm. Juste à temps.
À temps, parce que le Seigneur avait aussi... Quand la Satan avait dit non à ma naissance, le Seigneur a dit oui.
Amen.
Et il a continué à faire ces choses. Et à un moment, le Seigneur a dit, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est ton jour. Jour de grâce pour toi, Mylène.
D'accord. Merci beaucoup, Mylène.
Merci. C'est moi qui vous remercie.